Le rooibos est une plante bien adaptée à ce climat très rude. Cette région d'Afrique du Sud et un peu plus au sud d'ici est la seule qui a une saison des pluies en hiver. Le reste du pays ne reçoit des pluies qu'en été. Et le rooibos pousse à la marge de ces deux zones pluviométriques.
Histoire vivante. Une émission proposée par Laurent Huguenin-Hely.
Le rooibos, buisson rouge en afrikaans, est une plante endémique qui pousse sur les pentes des montagnes dans la province occidentale du Cap. Une boisson sans théine, désignée jusqu'au début du XXe siècle comme le « thé des pauvres ». Historiquement, sa collecte, sa préparation et sa consommation sont associées aux populations autochtones, les Khoisan. Quant au développement de sa culture, il est attribué aux colons blancs afrikaners, propriétaires terriens de la région d'origine. Aujourd'hui, son utilisation, sa production et sa mise en patrimoine cristallisent des enjeux identitaires forts en Afrique du Sud. Le rooibos représente l'héritage commun de différentes communautés du sud-ouest de l'Afrique du Sud et un candidat idéal à la reconstruction de la nation dite arc-en-ciel, malgré la persistance de disparités. Au micro de Céline Roduit, Maya Leclerc, socio-anthropologue au sein de l'atelier de recherche Sociotopie à Lille et autrice d'une thèse consacrée au rooibos. Cette semaine, Afrique du Sud, enjeu d'une réconciliation inachevée. Soyez les bienvenus dans Histoire vivante.
Bonjour Maya Leclerc, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Céline Roduit.
Comme point de départ à cette entrevue, j'ai envie d'aborder avec vous les acteurs clés de la trajectoire du rooibos et notamment de sa trajectoire commerciale. Ceux qui sont le plus souvent cités, ce sont quelques notables de la ville de Clan William, dont Benjamin Ginsberg. C'est un migrant russe issu d'une lignée de commerçants juifs spécialisés dans le thé. En 1904, à la fin de la Seconde Guerre anglo-boure, il est le premier à commercialiser le rooibos. Il achète des récoltes aux populations locales, les familles descendant des Khoisan, et il élabore un procédé de transformation assez proche des modes traditionnels de production. Mais pourquoi est-ce d'abord cet acteur-là que l'on retient aujourd'hui dans l'imaginaire collectif du rooibos ?
Alors, Benjamin Ginsberg n'est probablement pas le premier et certainement pas le seul à avoir commercialisé du rooibos à cette époque. Mais son nom est resté, car la famille Ginsberg est en fait pionnière de l'économie du rooibos et a largement participé à construire la filière à partir des années 1900. Pour compléter sa biographie, Benjamin rejoint sa famille, donc qui était déjà immigrée en Afrique du Sud, à la fin du 19e siècle. Sa famille tient alors un relais, qui fait à la fois du troc et du commerce, sur la route qui relie Cape Town au nord du pays. Plus précisément à Pikenierskloof Pass, donc au début des montagnes du Cederberg. Si la distance entre le Cap et le Pikenierskloof Pass est de moins de 200 km, il faut s'imaginer qu'à l'époque, il fallait plusieurs jours pour atteindre cette région reculée. Et il repère le rooibos, donc qui était à l'époque consommé comme substitut au thé et au café par les fermiers les plus pauvres, et commence à le commercialiser dans son relais. Il aperçoit assez rapidement le potentiel de développement du produit. Son petit-fils Bruce Ginsberg, que j'ai rencontré en 2008 au Cap, m'a dit que son grand-père disait toujours qu'il voulait faire de Clan William la Ceylan d'Afrique du Sud. Dès les années 1920, Benjamin crée le premier emballage de rooibos et essaye d'uniformiser la qualité du produit en réalisant un processus d'oxydation à plus grande échelle. Donc, en effet, le rooibos, pour que vous puissiez vous imaginer, qui ressemble morphologiquement un peu à un genêt. Donc, une plante d'une taille d'environ 1,20 m, avec des tiges vertes et fines. Il était à l'époque collecté à l'état sauvage, découpé à la hache sur des pierres, puis humidifié et déposé dans un sac. Ce processus, qui est communément appelé fermentation, certainement en référence au processus de transformation du thé, est en fait une oxydation enzymatique. Et c'est ce qui lui donne sa couleur rouge caractéristique. Le nom de Benjamin Ginsberg est resté, mais d'autres Afrikaners ont participé au développement de la filière à cette époque. Je pourrais notamment citer le docteur Peter Lefras-Nortier, ainsi quelques fermiers qui ont notamment développé le processus de mise en culture.
Aujourd'hui en Afrique du Sud, ce sont 500 producteurs qui se partagent la production de rooibos. Je crois que c'est à peu près 20 000 tonnes par an. Environ la moitié sont des métis, descendants des Khoisan, et l'autre moitié, ce sont des fermiers afrikaners, donc descendants des colons européens et propriétaires terriens. Et ce sont eux qui détiennent plus du 90% de la production. Et puis, ben voilà, les petits fermiers se partagent le reste. Alors, on serait tenté de séparer le casting autour du rooibos en deux groupes. D'un côté, les propriétaires fonciers, dans la grande majorité des blancs afrikaners, ce qui aurait contribué au développement du rooibos. Et puis, de l'autre, les ouvriers métis. Mais je crois que la réalité est évidemment un peu plus perméable et complexe.
Effectivement, aujourd'hui, la situation est plus complexe. Mais ce casting dont vous avez parlé est encore très présent et a structuré toute l'économie du rooibos. L'histoire n'a retenu que les noms des afrikaners et des immigrés d'origine européenne. Mais les populations locales, donc notamment les ouvriers métis, donc comme vous l'avez dit, descendants des Khoisan, ont largement participé au développement de la mise en culture et de la commercialisation du rooibos. Je pourrais notamment citer un couple d'ouvriers, Hans et Trine Kiswart, qui travaillaient sur la ferme du docteur Nortir. Les graines de rooibos sont très petites, elles font 1 à 2 mm environ, et elles sont difficiles à récolter dans le substrat sableux car elles se confondent avec sa couleur, elles sont très pâles. Et pour développer le processus de germination, il faut des graines, et les récolter à la main, c'était pas évident à l'époque. Trenki avait repéré que les fourmis transportaient les graines de rooibos. Et en les suivant, elle a pu donc collecter un nombre important de graines directement dans les fourmilières et ainsi aider le docteur Nortir à développer les techniques de germination. Sans son savoir-faire, le rooibos n'aurait probablement pas connu un tel développement. En tout cas, pas dans la même temporalité. Ce récit fait aujourd'hui partie de la mémoire locale. Il est largement véhiculé dans la région de Clan William et montre l'importance des savoirs et techniques des ouvriers métis dans le développement de la filière. Mais il n'est que peu relayé par les ouvrages sur l'Afrique du Sud qui ne citent que les grands noms des afrikaners et immigrés d'origine européenne.
Oui, je crois même que dans la première moitié du XXe siècle, le marché s'est tellement développé, les collectes étaient tellement nombreuses, peut-être un peu trop nombreuses, que le rooibos, la matière première, aurait failli disparaître.
Oui, effectivement. Le rooibos pousse dans un environnement qui est assez fragile, qui s'appelle le fynbos, qui est unique au monde d'ailleurs. Et la pression sur la ressource était telle que, heureusement, que la maîtrise des techniques de germination et donc de mise en culture du rooibos ont permis d'alléger la pression sur la ressource à l'état naturel. Sinon, on n'est pas sûr que le rooibos aurait survécu jusqu'à aujourd'hui.
Maya Leclerc, vos travaux le montrent très bien. Le rooibos est un produit profondément ancré dans la culture afrikaner. C'est un produit qui reflète cet héritage de la période coloniale. On le voit encore aujourd'hui hein, sur les emballages de certaines marques qui convoquent ces images du mode de vie et de l'histoire afrikaner.
Alors effectivement, de nombreuses marques qui ont été développées pendant l'apartheid et encore commercialisées jusque dans les années 90-2000 font référence à l'imaginaire du Grand Trek. Le Grand Trek, c'est la migration des afrikaners de la région du Cap vers le nord-est et donc à leur installation dans la région de Pretoria et de Johannesburg. Le Grand Trek est souvent symbolisé par le chariot à bœuf qu'on retrouve sur les emballages de certaines marques, notamment la marque Lager. Ou encore, on peut citer le nom de la marque 11 O'Clock, qui a été créée par la famille Ginsberg. 11 O'Clock se réfère au mode de vie des fermiers afrikaners qui se lèvent tôt et font une pause déjeuner en fin de matinée. Dans ces deux marques, on voit en fait aussi une volonté des afrikaners de se différencier du mode de vie des colons d'origine britannique. Les premières images liées au rooibos représentent clairement le mode de vie et les symboles de l'identité afrikaner. Mais aujourd'hui, on est quand même 30 ans après la fin de l'apartheid, l'imaginaire du rooibos s'est réinventé. Les emballages font plus facilement référence à l'univers des Khoisan, notamment en présentant des peintures bushmen qui sont nombreuses dans les grottes présentes dans la région de production du rooibos, ou alors plus simplement au paysage du Cederberg. Ça dépend aussi de la cible. Les emballages à destination du marché sud-africain font encore parfois référence à l'imaginaire local, tandis que ceux à destination de l'export vont avoir des illustrations plus génériques, plus exotiques. On retrouve par exemple souvent des paysages de savane africaine sur ces emballages.
Si on prend l'année 1948, le système de l'apartheid est donc adopté, ce système de l'apartheid officiel. Le développement agricole et le système ségrégatif se croisent. Mais au début du XXe siècle déjà, en 1913 et 1936, les Natives Land Act, comme on les appelle, définissent déjà une ségrégation spatiale et foncière. Ce sont ces deux lois qui affectent 8% puis 13% du territoire sud-africain aux non-blancs. À l'époque, ils représentent environ 90% de la population. Et puis ensuite, pendant l'apartheid officiel, environ 75% des terres cultivables étaient réservées aux fermiers blancs. Les noirs sont cantonnés dans les bantoustans, tandis que les métis se retrouvent dans des réserves. Comment le marché du rooibos va pouvoir continuer à se développer sur ce fond de ségrégation raciale et spatiale ?
Alors, le marché du rooibos se développe à cette période, mais on peut distinguer deux vagues de développement. Une première vraiment à l'échelle nationale, donc en Afrique du Sud, et ensuite une ouverture vers le marché international. Et donc on voit ici un croisement entre l'histoire de l'Afrique du Sud et l'histoire mondiale, qui joue un rôle non négligeable dans ce double développement de la production de rooibos. Plus précisément, donc, il faut savoir que durant la Seconde Guerre mondiale, il est difficile de s'approvisionner en thé. Les circuits internationaux sont bloqués. Cette pénurie de thé noir en Afrique du Sud va faire exploser la consommation de rooibos. Mais le marché en Afrique du Sud s'effondre après la guerre. Alors, en 1948, la première coopérative de fermiers producteurs apparaît. Elle s'appelle la Clan William Tea Corporation. Et elle est basée à Clan William. Quelques années plus tard, en 1954, la filière de production et de vente s'institutionnalise. Le gouvernement crée le Rooibos Tea Control Board, qui deviendra ensuite Rooibos Limited en 1994, qui est encore aujourd'hui la plus grosse structure de production et de transformation du rooibos. Cet office détenait l'exclusivité de la commercialisation du produit. Le Rooibos Tea Control Board avait la particularité de réguler le marché d'une production unique au monde, ce qui a probablement participé au renforcement de son autonomie. Mais le contrôle étatique freine aussi l'essor commercial dans un contexte où les sanctions commerciales à l'international sont importantes vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Pour revenir sur la production, pendant l'apartheid, donc 1948 jusqu'à 1991, le marché se développe d'abord sur le territoire national. Pour donner une idée un petit peu de l'évolution de cette production, en 1960, on a une production d'environ 1000 tonnes, dont seulement quelques-unes, une quinzaine de tonnes environ, partent à l'étranger. En 1990, donc à l'aube de la fin de l'apartheid, on atteint environ 6000 tonnes de production. Ça peut sembler beaucoup à l'échelle du pays, mais ça représente à l'échelle mondiale moins de 1% du marché des thés et des tisanes. On arrive ensuite à la fin de l'apartheid et donc des sanctions commerciales internationales qui sont croisées aussi avec la dérégulation du marché du rooibos. Donc on a le démantèlement du Rooibos Tea Control Board et qui permet du coup au marché de se diversifier. On voit apparaître un certain nombre de structures qui produisent mais aussi transforment et commercialisent le rooibos. Donc ça permet en fait un nouvel essor de la production et surtout de développer le marché international. C'est dans ce contexte qu'en 2020, on arrive à une production annuelle d'environ 20 000 tonnes. La consommation à l'échelle nationale n'a quasi pas bougé. On reste aux alentours de 6-8 000 tonnes et le reste en fait est vraiment destiné à l'export.
Dans les pays européens notamment ?
Oui, notamment dans les pays européens et particulièrement en Allemagne. Ça s'explique en fait le fait que le rooibos est vendu à la fois en fait sur le marché des thés et des tisanes. Au niveau du marché des thés, en fait, la consistance de la boisson est assez proche des thés anglais et fonctionne très bien comme substitut au thé. Mmh. Sur le marché des tisanes, ça s'adresse du coup aux gens qui cherchent directement des boissons sans théine. Mmh. Et on sait que le marché allemand est particulièrement favorable à ce type de produit. No, I just can't seem to give it up. 'Cause the tea runs in my veins. Won't you please pour me another cup? Only tea teases, only tea eases my pain. No, I just can't seem to give it up. I sip it all at 5 p.m. Won't you please pour me another cup? Till my blood turns green and the Katie's tea turns red. Katie's tea turns red. And the Katie's tea turns red. Katie's tea turns, Katie's tea turns. Life is a short, it's a burn and go water. So stay, can you sprinkle more leaves than our ambient? Oh dear, Katie. Mama's so sad, it's a burn and
Can't seem to give it up. Because the tears in my face. Would you please pour me another cup? Only tea teases my mom is so sad to sit on the ground. Only tea teases my. Life is a short, the short, wet and cold water, so stick and just drink and more leaves and our empty hands, oh dear.
Histoire vivante, cette semaine, Afrique du Sud, enjeu d'une réconciliation inachevée.
Maya Leclerc, si on revient maintenant au propriétaire Afrikaner qui s'arroge le 90% de la production alors que l'autre moitié des producteurs est métisse, des populations métisses qui ont un accès limité à la propriété foncière, dans quelle mesure ces populations autochtones parviennent à exploiter le rooibos ?
Alors l'exploitation par ces populations autochtones est très récente en fait, elle date de l'après-apartheid, donc au début des années 2000. Je parle d'exploitation, c'est-à-dire de transformation et de vente. Les métis ont toujours largement participé à la production du rooibos, comme on a pu le voir avec l'histoire de Hans Etrenki Bertman. Les producteurs métis, donc s'y représentent environ la moitié des producteurs de rooibos, sont en fait réunis au sein de deux principales coopératives, Highfield et Wuppertal, donc qui se sont constituées dans des contextes différents à la fin de l'apartheid et plus précisément au début des années 2000. Wuppertal est une ancienne mission morave qui s'est constituée au 19e siècle. L'église mettait à disposition des parcelles cultivables accessibles aux métis. Si les terres appartiennent aujourd'hui toujours à l'église, elles ont permis aussi, d'une certaine manière, de sécuriser l'accès aux fonciers pour les métis. Et c'est ce qui a permis l'émergence d'un collectif de producteurs à l'issue de l'apartheid. Highfield est situé plutôt à l'extrême nord de la région de production du rooibos, dans une région assez aride, aux alentours de la ville de Newfoundland. Le manque d'attractivité des terres, donc notamment lié à l'aridité de la région, est notamment une des raisons qui a facilité la redistribution des terres après l'apartheid aux métis. Ces deux coopératives sont en fait toutes les deux situées dans des régions plus reculées, plus difficiles à exploiter, donc dans une région plus aride pour Heyveld et plus montagneuse pour Wuppertal, mais qui produisent un rooibos de qualité supérieure à celui qu'on trouve dans les plaines.
On reviendra peut-être ultérieurement sur cette question des zones d'exploitation, mais un des facteurs qui a contribué réellement au développement de la consommation de rooibos, notamment au niveau national, c'est la médiatisation de ses propriétés pharmaceutiques dans les années 60.
Oui, dans les années 60, le produit va effectivement changer d'identité. Il passe de substitut au thé ou au café à un produit aux vertus médicinales, grâce à une mère de famille de Pretoria, Aniki Theron. Elle raconte dans ses livres, mais lors de la rencontre que j'ai pu faire avec elle à la fin des années 2000, que sa Benjamine avait des difficultés à digérer le lait. Ne sachant plus comment la soulager, elle lui donne sur un coup de tête la fin d'une tasse de rooibos et constate que sa fille s'est immédiatement apaisée et endormie. Par la suite, elle a continué ses expérimentations, médiatisé son histoire et notamment monté une des premières filières de cosmétiques autour du rooibos, qui est particulièrement développée en Afrique du Sud. Donc ces propriétés sont connues par les consommateurs, mais font encore l'objet de controverses. Les chercheurs qui travaillent sur ce sujet reconnaissent que le rooibos est une boisson aux propriétés bienfaisantes, par ses propriétés antispasmodiques ou son efficacité dans le traitement des dermatites. Cependant, ses vertus anti-allergéniques, donc celles qui ont notamment été médiatisées par Aniki Theron, ou sa teneur en acide ascorbique, c'est-à-dire en vitamine C, ont plutôt été démentis, en tout cas non prouvés par les recherches scientifiques. Pour les chercheurs en sciences de l'alimentation, il ne peut donc être considéré comme une médecine. Un ancien ingénieur du Rooibos Tea Control Board m'a dit qu'en fait, la seule chose dont on était sûr avec le rooibos, c'est que le rooibos ne faisait pas de mal, qu'on pouvait en consommer en grande quantité sans aucun souci. Donc le succès commercial du rooibos tient en fait qu'il est, du point de vue des consommateurs et non des scientifiques, à la fois sur le marché des thés, sur le marché des tisanes, mais aussi sur le marché des plantes médicinales.
Si on fait une petite parenthèse par rapport à ce débat actuel sur les alcaloïdes qui seraient présents dans la tisane rooibos, notamment dues aux mauvaises herbes qui seraient arrachées, prises avec la récolte sur les buissons de rooibos en Afrique du Sud. Ce débat-là, finalement, à quel point il impacte les récoltes et le commerce du rooibos aujourd'hui ?
Alors pour revenir sur le processus de transformation, donc comme je disais, le rooibos est découpé. Alors si c'était fait de manière très artisanale, donc sur la première moitié du XXe siècle, aujourd'hui ça se passe sur ce qu'on appelle des tiges courtes. Donc ce sont des grandes zones bitumées sur lesquelles le rooibos, une fois découpé, est posé en tas, humidifié, retourné, donc pour lancer le processus d'oxydation enzymatique qui lui donnera cette couleur rouge. Ça se passe au grand air et vous avez dit qu'il y avait effectivement un certain nombre de... Il peut y avoir un peu de sable, un petit peu de terre, mais il est sûr qu'en tout cas, aujourd'hui, à l'issue de l'oxydation, une fois que le rooibos est séché, il est également pasteurisé pour s'assurer que la présence éventuelle de résidus n'altère pas la qualité et surtout n'en fasse pas un produit qui contienne notamment des bactéries. Pour avoir goûté plusieurs fois du rooibos à la sortie du tea court et donc avant pasteurisation, on sent bien sûr une différence... Le goût avant pasteurisation est plus fort, plus relevé. Si la pasteurisation a permis de s'assurer de l'absence totale de bactéries ou de particules qui pourraient mettre en danger la santé des consommateurs, en revanche, ça lisse, ça uniformise aussi la qualité et le goût du rooibos.
En 1991, le régime de l'apartheid est aboli. On assiste à une volonté de redresser les inégalités sociales et économiques construites pendant le régime ségrégationniste. Et dans ce sillage, on assiste aussi à un débat sur la place et l'héritage du rooibos dans la société sud-africaine.
Oui, si l'origine de la découverte du rooibos n'a jamais été réellement établie, les premières sources scientifiques qui citent l'observation de la consommation de rooibos parlent de « country people ». Terme qui pourrait à la fois se référer à des fermiers afrikaners comme à des descendants des Khoisan. Il est d'usage, clairement, de l'associer aux Khoisan et c'est ce qu'on retient aujourd'hui de l'histoire du rooibos. Donc, il est d'usage de l'associer aux Khoisan ou tout du moins à leurs descendants, donc les métis de la région du Cap. La commercialisation et la mise en culture sont, quant à eux, attribués aux Afrikaners, bien que les ouvriers métis aient joué un rôle important, dont l'appui à donc la mise en culture et à la commercialisation du produit. Aujourd'hui, donc 30 ans après l'apartheid, le rooibos se cherche une nouvelle place, une nouvelle histoire, un nouvel héritage, et devient également un enjeu en termes de redressement des inégalités sociales et raciales. Ce qu'on pourrait décrire à travers deux exemples, le premier c'est celui du commerce équitable. Dans les années 2000, seules les deux coopératives de producteurs métis, donc Highveld et Wuppertal, avaient obtenu ces labels. Aujourd'hui, plusieurs fermes détenues par des Afrikaners ont pu également bénéficier de ce label, notamment dans le cadre de la redistribution d'une partie de leurs terres à leurs ouvriers. Donc, si l'attribution du label commerce équitable à des grandes exploitations peut sembler un levier intéressant concernant la réduction des inégalités sociales, sur les grandes exploitations, le coût de production est moindre et la capacité de production plus importante. Donc l'attribution de ces labels, elle impacte pas tout à fait de la même manière les grandes exploitations et les petites coopératives de producteurs métis. D'autre part, le marché du commerce équitable ne pourra probablement pas à terme absorber l'ensemble de la production, ce qui risque plutôt de désavantager les coopératives de petits producteurs. Donc on voit ici en fait une ambiguïté autour de un paradoxe plutôt autour de faut-il étendre le label commerce équitable, qui est donc un indicateur de réduction des inégalités sociales dans la société sud-africaine, ou plutôt le limiter aux coopératives qui en ont en fait un usage plus important, qui est symboliquement plus important. Le deuxième exemple que je souhaitais citer, c'était l'attribution d'une AOP, appellation d'origine protégée, en 2021 pour le rooibos. C'est également un label, mais qui va protéger le nom et la ressource. L'intérêt de cette AOP, c'est qu'en fait, la protection du nom et de la ressource est reconnue à l'échelle mondiale. Et en tout cas, l'AOP a été enregistrée par l'Union européenne. Ce qui veut dire qu'en fait, personne ne peut enregistrer une marque sous le nom rooibos en Europe. Il y aurait une barrière à ce niveau-là. Donc, l'attribution de cette AOP, c'est le fruit d'un long travail qui a été coordonné par l'industrie du rooibos et appuyé par plusieurs organismes de recherche, à la fois sud-africains, mais aussi français. Un des leviers déclencheurs de ce chantier AOP, c'est le fait que le rooibos ait fait l'objet de plusieurs tentatives de mise en culture dans d'autres pays.
Notamment aux États-Unis.
Aux États-Unis, effectivement. Donc, tentative de mise en culture, mais aussi tentative d'enregistrement de la marque rooibos. Et ça, ça a été le cas aux États-Unis, mais aussi en France. Donc, il y a eu des barrières. Ces marques ont dû être annulées. Mais ces différents éléments ont participé à renforcer le sentiment d'avoir un patrimoine commun, une identité commune à protéger. Donc, cette protection, l'attribution de cette appellation d'origine protégée, elle est globale. En fait, elle va concerner l'ensemble de la ressource. La filière conventionnelle, mais aussi les filières équitables, biologiques, ou encore la production de rooibos sauvage. Donc, cette AOP, elle profite à tous les producteurs. Mais elle uniformise aussi, en quelque sorte, le produit, en lui construisant une identité globale. Les deux coopératives de producteurs métis, elles sont situées sur les meilleurs terroirs de production, donc sur les zones les plus arides, les plus reculées et les zones montagneuses. À terme, il serait intéressant d'observer si l'AOP ou d'autres labels viennent appuyer la reconnaissance, en fait la distinction de ces filières spécifiques du rooibos, ce qui serait certainement un moyen de continuer à réduire les inégalités socio-économiques issues de l'apartheid, en plus de reconnaître ces filières donc qui construisent une qualité spécifique.
Donc aujourd'hui, on peut pas vraiment dire que cette AOP fait partie d'un processus qui profiterait à toutes les communautés autour du rooibos.
On pourrait dire qu'il profite à tous les producteurs. Protéger la ressource rooibos, c'est clairement protéger l'ensemble de la production. Mais ça, comment dire, ça n'apporte pas de protection spécifique aux productions les plus fragiles ou qui, du coup, pourraient mériteraient d'être appuyées au titre du redressement des inégalités sociales et économiques en Afrique du Sud.
Donc une réconciliation de la nation par le rooibos n'est encore pas envisageable à l'heure actuelle.
Alors on pourrait dire, quand on voit l'évolution de la représentation de l'histoire du rooibos, on sent qu'on tend vers une réconciliation avec une reconnaissance à la fois de l'apport de toutes les communautés dans la constitution de la filière, mais aussi aujourd'hui dans la constitution de ce qu'est le rooibos aujourd'hui. Mais il est vrai qu'on pourrait probablement aller plus loin. Et si l'histoire du rooibos nous apprend beaucoup sur le passé de l'Afrique du Sud, sur ses populations, sur son économie, et aussi sur toute cette période qui était l'apartheid, l'avenir du rooibos sera certainement révélateur de l'évolution des inégalités sociales et économiques en Afrique du Sud. Si l'Afrique du Sud protège et valorise cette ressource, ira-t-elle vers une protection plus spécifique de la ressource située dans les terroirs montagneux et arides, et donc qui sont aux mains des coopératives de producteurs métis? Un des leviers sur lesquels l'Afrique du Sud pourrait s'appuyer, c'est notamment la protection de son environnement. Car le rooibos est produit dans un écosystème très fragile qui s'appelle le fynbos, voilà, et qui est également unique au monde, tout comme le rooibos.
Maya Leclerc, merci beaucoup pour cet éclairage sur l'histoire du rooibos, ce baromètre de la réconciliation entre les peuples de la nation sud-africaine.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue au sein de l'atelier de recherche Sociotopie à Lille et puis autrice de la thèse Le rooibos, dynamique locale autour d'un produit marchand à succès, révélatrice d'une société sud-africaine plurielle.
Maya Leclerc, interviewée par Céline Roduit. Dans le prochain épisode d'Histoire vivante, nous nous pencherons sur la question des relations économiques entre la Suisse et l'Afrique du Sud durant l'apartheid. Très bel après-midi sur RTS La Première et bien à vous.
Histoire vivante, une émission de Laurent Huguenin-Elie, en collaboration avec Frédéric Pfiffer de l'unité des films documentaires de la RTS, ainsi que le quotidien La Liberté. Réalisation, David Golan. Attaché de production, Corinne Rochat, Valérie Dantan et Daniel Zacker.